saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour, ici c'est votre serviteur André Duny, habitant des bords du lac des Golettes et de la Chartreuse du coup, puisque Lépin le lac est sur le versant Chartreuse du lac. Et c'est la saine cause, alors c'est pas pour le bien commun, si on peut le dire comme ça, c'est pour les biens communs et c'est pour un monde vivable. Ben oui, parce que les nouvelles elles sont assez catastrophiques. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Allez, je commence par une bonne nouvelle, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, je prends les mouchoirs quand je vous écoute » ou bien « Ça me fatigue les méninges ». Mais bon, je vous rappelle que les méninges, si on ne se les fatigue pas, on risque de périr tous ensemble. Il faut s'énerver un peu les neurones si on veut penser ce qui arrive. Hein. Bon, souvent, je prends l'exemple d'une partie du peuple juif à qui on avait dit en Pologne vous aurez un joli espace pour vous et qui l'ont cru et qui ont fini en chambre à gaz alors que toutes les informations auraient pu les guider vers une solution de résistance ou de fuite éperdue. Alors la bonne nouvelle c'est quatrième jugement positif pour le lac. C'est ce super site qu'il faut que vous alliez voir, le collectif SOS Lac des Golettes Aviron 2015. C'est un blog qui donne les infos à chaque recours juridique. Et bien voilà, le quatrième recours juridique de la Cour d'appel, donc, de Lyon, confirme le jugement d'octobre 2017 en faveur de la nature et du patrimoine du lac des Golettes. Le bassin d'Aviron a bien été illégalement construit parce que les élus avaient fait un 4 pages, je vous en avais informé, en couleur, aux frais du contribuable, distribué dans toutes les boîtes aux lettres, qui dirent non, même s'il y a eu 3 jugements nous disant de démonter les installations fixes d'Aviron côté ouest, qui ont abîmé des palafites, qui ont, créé une plage, tout ça, on le fera pas. Voilà, on l'a décidé et on le fera pas. Et là, quatrième jugement qui leur dit ben, il faut le faire. Voilà. Nous entendons quand même que la Cour a annulé l'ordonnance de démolition, préférant que la nature ne soit plus perturbée. Parce que c'est vrai que démolir, enlever des plots de béton et des câbles en acier sous-marin, ça peut encore brasser la biodiversité du lac. Et cette argumentation, donc, vient par la même occasion confirmer que les constructions initiales ont bien été faites malgré le risque de pollution dont les élus étaient au courant. Hein. Les élus, c'est le Conseil général de Savoie et bien sûr la communauté de communes du lac des Golettes. C'est plutôt une communauté d'entrepreneurs qu'une communauté de défense des biens communs. Là, les biens communs, pour nous, dans les nouvelles propositions que je fais aux élus et à la population, c'est que le lac des Golettes devienne propriété de tous les habitants du bassin et de la périphérie. C'est-à-dire que pour que ce soit un bien commun, il faut qu'il devienne propriété des habitants et que cette propriété soit gérée par les habitants. Voilà la définition d'un bien commun. Et qu'ils en fassent ce que nos anciens ont fait, c'est-à-dire le protéger, en tirer des ressources de façon soutenable, responsable. Par exemple, avant, il y avait 6-8 pêcheurs qui pêchaient juste ce qu'il fallait. Et en évitant de faire ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire la bétonisation des 7 lotissements. Si vous voulez un jour voir le désastre, c'est simple. Lépin, chef-lieu, mairie. Et puis aller de la mairie de chef-lieu Lépin à mairie d'Aigbelette pour voir 6-8 baraques les plus hideuses possibles sur les plus beaux prés et les plus beaux terrains. Et une forêt rasée. Rasée, rase, c'est interdit, mais c'est fait quand même. Il y avait des châtaigniers pour manger. Voilà, donc c'est ça l'avenir. Alors, malgré ça, c'est quand même une bonne nouvelle, malgré que ça continue de faire béton, pognon, goudron, que ces procès lancés en 2013, jugés en 14, puis encore en appel en 2016, puis encore lancés en 2015 et jugés en 2017, puis en ce mois d'octobre 18, en appel, tous ont confirmé le bien fondé donc des arguments posés par les associations de protection du lac des Golettes. Voilà. malgré tout, malgré que le conseil départemental et ses appuis locaux, donc CCLA, aient envie d'imposer ces nouvelles installations d'aviron ouest. Il y en avait déjà à l'est, hein, qui gênaient pas trop. Depuis le 9 et sous forme de collectif, les assos ont fait face à plusieurs fronts, face à cet désir entrepreneurial des élus. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, alors, allez le voir sur leur site et verser un petit peu de pognon, comme je le fais, et ça sera sympa. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'est vous dire que le sentiment de la nature est une force révolutionnaire. C'est un père de la décroissance qui dit ça, Jacques Ellul, et je le pense fondamentalement. En tout cas, je crois que... Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? C'est que l'histoire, c'est cette fois une science du passé, hein. C'est une connaissance du présent avec l'aide de l'épaisseur du temps. C'est vrai qu'une longue lignée nous pousse dans le dos pour dire ne faisons pas ce que nous faisons au présent, faisons plutôt ce que nos pères ont fait, à savoir de protéger leur bien commun. Et pourquoi ils protégeaient leur bien commun, nos pères? Eh bien, ces biens communs, c'était la terre, la forêt, c'était les ressources de la nature, les animaux, les insectes, etc., les abeilles. Parce que le capitalisme, il s'est fait sur le démantèlement de l'agriculture et de l'autonomie des gens qui habitaient dans la campagne. D'ailleurs, je pense profondément, c'est mon dernier renvoi, ça, c'est pour si vous êtes sur la liste Seine-Savoie, hein, je fais une petite liste de 120 personnes à peu près, j'ajoute à un échange où il y a à peu près 200-300 personnes, plus parfois, un peu moins des fois, et sur le site laseine.org, la-cen.org, où j'essaye de montrer que c'est vraiment un repeuplement des campagnes et les batailles acharnées pour sauver les lacs, les forêts, les prairies, les terres arables et toute la biodiversité qui va nous permettre de survivre au prodigieux effondrement qui s'accélère du climat, de la biodiversité, et puis ces océans de plastique, et puis aussi la faillite que tout le monde prévoit deux ans maximum du système financier international, notamment l'effondrement du dollar, puisque les Américains ont, avec le dollar, inondé la planète pour les échanges, qui était la valeur d'échange de tous les produits, en émettant mille fois plus que leur propre valeur à eux d'économie américaine. Donc ça craint un max pour tout le monde, parce que si jamais c'est le cas, on n'aura pas de monnaie pour faire circuler pendant des mois et des mois. Pour faire circuler, c'est-à-dire pour acheter à manger. Alors, voilà, pour l'actualité, cette invitation chaude à se bouger, bien sûr, comme d'habitude, hein, pas parce que je suis un sur le retour qu'il ne faut pas se bouger avec tous les jeunes qui veulent se bouger ou tous les anciens. Nous étions, par exemple, vendredi dernier, devant la mairie de Chambéry. On était 120 à peu près, avec les Amis de la Terre et les associations Les Coquelicots et Génération Future, etc., à se bouger sur l'histoire d'interdire définitivement et rapidement tous les pesticides. Vous avez vu que ceux qui bouffent bio, 25 à 35% n'ont pas de cancer. C'est une étude sur 7 ans, c'est une étude sur 70 000 personnes, c'est une étude des organismes de recherche officiels de la France. Enfin, ils auraient pu le faire il y a 30 ans, mais ils l'ont fait maintenant. Et tout ça pour sauver ce qui reste à sauver de la biodiversité. Donc, vendredi 17 décembre, 18h30, chaque premier vendredi, à Lyon, à Chambéry, à Saint-Laurent, à Saint-Pierre, partout devant les mairies, c'est rendez-vous, nous voulons des coquelicots. C'est stopper les pesticides partout. Moi, devant chez moi, là, un brave paysan, s'il était emmerdé, mais avec son tonneau, il envoyait le Roundup sur une haie parce qu'elle le gênait. Quelques jours après, les vaches ont brouté. Bonjour le lait pour nos enfants. Ensuite, pollution de l'air en Savoie. Les Amis de la Terre, encore eux, c'est eux qu'il faut rejoindre sur ces combats-là, bien sûr, ont fait une super soirée où nous étions d'ailleurs pas au lac d'Aix-les-Bains, celui-là est très malade, mais au cinéma Victoria. C'était une super soirée où tout le monde a parlé et où un combat au moins a été gagné, celui de faire brûler des déchets végétaux dans les campagnes de la Savoie. Bon, ça continue dans l'avant-pays savoyard, hein. Ça, c'est un appel à tout le monde. J'ai beau me informer tout le monde ici, dans l'environnement, tout le monde continue de faire brûler 50 kilos de déchets verts, surtout s'ils sont pas secs. C'est 7000 à 20 000 kilomètres de diesel qui partent en petite fumée suie sur les jardins des alentours, les forêts et le lac. très très mauvais, et pourtant ça continue malgré des PV à 450 euros. Mais ils se murmurent que monsieur le préfet ferait le job en faisant sauter certains de ses préfets, mais j'ai bien dit « ferait ». Je demande à ce que ce soit vérifié et je ne veux pas être en procès sur une information qui serait une fake news. Et en tout cas, la marche pour le climat, notez bien, c'est 13 octobre à Chambéry, place des éléphants, hein, 8 décembre, pardon, place des éléphants, pareil, les amis de la Terre, on y va, plus quelques autres, attaques et compagnie. Nous y appelons, bien sûr, avec nos tout, tout petits moyens. Hein. La CEN, vous faites pas d'illusions. Hein. Si vous n'êtes pas adhéré en masse, c'est 5-6 adhérents, ça voit, depuis 2 ans, on va pas bouger les montagnes avec ça, mais quand même essayer de bouger les consciences avec la radio, et puis nos listes, et puis ben, ce qu'on peut faire, mais on n'a pas beaucoup de moyens pour tirage papier. C'est aussi se bouger contre les montagnes de plastique. C'est contre la pollution de l'air en Savoie, donc... C'est aussi pour l'avenir du bassin du lac, donc ce jeu dont je vous parlais, c'est-à-dire cet appel, ce double appel que je fais pour, après les victoires concernant les installations fixes d'aviron, eh bien essayer de stopper la folie de construction de maisons en béton, goudron, pognon, comme je dis, autour du lac. Parce qu'à terme, on le sait, c'est des ruissellements d'eau dangereux, c'est beaucoup de bagnoles, c'est l'appel au tourisme, c'est la, eh ben, c'est la disparition de terres qui pourraient nourrir nos enfants. Voilà. Enfin, une autre bonne nouvelle, notre ami Daniel Ibanez, hein, contre le Lyon-Turin, que vous connaissez sans doute sur cette radio, j'y ai fait allusion, et plusieurs autres, appelle à soutenir les lanceurs d'alerte, dont il est, donc j'espère que je suis à mon petit niveau un petit peu aussi, sur une analyse systémique hein, du système qui nous broie, soutenir les lanceurs d'alerte, c'est aller à Paris, bon je sais c'est à Paris, mais à la maison des métallos, il réunit tout ce qui bouge en matière de lanceurs d'alerte, et ben, je crois que il faut aller sur son site et soutenir cette... C'est lanceurs d'alerte, donc Paris Maison des Métallos, des livres d'alerte, donc c'est tous les livres de tous les lanceurs d'alerte, et au 16-18 novembre, 3 jours, débats, rencontres, etc. Bon, comme je suis le copain d'une de ces lanceuses d'alerte pour HSBC, j'invite chaleureusement. Bon, moi, vu mon grand âge, je ne sais pas si j'irai. Hein. Bon, Daniel, tu me pardonnes, mais voilà, j'ai fait le job, j'ai annoncé. Bon, un autre truc très intéressant pour vous, c'est de savoir qu'on n'est quand même pas les seuls à se bagarrer à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs, ou à Belette ou ailleurs, hein, contre les Center Park par-ci, la 45 Lyon-Saint-Étienne par-là. D'ailleurs, deuxième bonne nouvelle, puisque j'avais soutenu contre le projet d'autoroute qui détruisait les coteaux du Lyonnais et en direction de Saint-Étienne, eh bien, le projet serait abandonné. Ah ben ça, c'est une très très bonne nouvelle. Saluons les milliers de personnes qui sont mobilisées et qui font que ce projet d'autoroute est arrêté. Enfin, il se méfie, hein, le collectif. Il est arrêté, il pourrait reprendre, parce que l'appétit des bétonneurs, que ce soit Bouygues, Vinci et compagnie, FH, est sans limite, hein, comme on l'a vu pour les autoroutes, où ils nous ont escroqué l'État de 22 milliards et continuent d'augmenter les péages en mettant plein les fouilles aux actionnaires, mais vous connaissez ça. Là, il y a un truc qui m'a bien plu, c'est le Notre-Dame-des-Landes allemande, c'est la mine d'Ambach. C'est une c'est en fait une excavatrice géante, hein, une seule pale emmène 14 tonnes de lignite, et ils ont déjà rasé 7 villages, et là, ils ont déjà bouffé les 3/4 d'une forêt, celle d'Ambach, et des milliers, des dizaines de milliers d'Allemands se sont levé pour s'y opposer, et Merkel a envoyé sa police qui ont quand même pas mal tabassé, notamment les petits jeunes qui ont fait des cabanes dans les grands arbres depuis 4-5 ans, des jeunes merveilleux qui ont le sentiment de la nature et que la lutte pour sauver la nature, c'est la même pour sauver les êtres humains de l'exploitation capitaliste, du chômage, de la vie claire et puis surtout de la misère dans lesquelles sont plongées en France, on va dire bien 11 millions de personnes qui vivent avec moins de 800 euros par mois. Quoi. C'est impensable de vivre avec 800, surtout que ces gens ne sont pas propriétaires, n'est-ce pas? ils sont locataires, tout augmente et je vois pas bien comment ils vont faire, y compris avec des vieilles bagnoles pour aller trouver un job ou tailler une haie par-ci par-là. C'est souvent le cas dans l'ubérisation généralisée de notre société. Donc le sentiment de la nature est une force révolutionnaire, comme le sentiment de la justice sociale est une force révolutionnaire. Les deux, ce sont les mêmes sentiments révolutionnaires. Aimer son prochain, je vous fais pas un baratin de religieux, hein, je vous fais aimer son prochain, c'est révolutionnaire. Aimer la nature, c'est révolutionnaire, parce que les deux, le mon prochain et la nature, sont bousillés par le même système d'actionnariat de milliardaires qui mettent leur pognon à étirer le maximum de la nature et à attirer le maximum de l'homme. Tout le monde a bien compris ça, je pense, en écoutant ces émissions. Et vous pouvez toujours me téléphoner au 06 80 05 79. Et cette mine d'embar, ce qui m'a fait peine en regardant Arte, c'était aujourd'hui, là nous sommes le 5 ou 6 novembre, nous sommes mardi 6 novembre, eh bien c'est que les ouvriers de ces excavatrices géantes, hélas, ont manifesté contre tous ceux qui manifestaient pour la forêt. Eux, ils manifestaient pour garder leur emploi aux commandes de ces machines géantes. Voir disparaître la forêt ici autour de chez moi, ou voir de la laideur du béton et du goudron autour de lac, c'est une maltraitance pour les humains qui habitent autour du lac, c'est une maltraitance pour les Allemands qui allaient dans cette forêt cueillir le muguet et se détendre et rêver. Or, c'est une grande tristesse pour moi que de voir qu'ils manifestent contre la destruction de leur emploi. Quelque part, je les comprends. D'autre part, faire signer des pétitions pour continuer l'extraction qui a déjà englouti 7 villages en Allemagne et bousiller cette forêt et d'autres, il en reste à peine un quart, hein. Eh ben, ça me fait mal au ventre. Alors que peut-être il faudrait qu'on réfléchisse tous ensemble, c'est le but de mon émission, je suis des deux côtés, du côté de la nature, du côté des ouvriers, pour sauver et la nature et pour une décroissance massive des excroissances capitalistes. Je suis pour la décroissance de l'économie capitaliste massive et pour qu'on retrouve massivement de l'emploi. Comment ? Eh ben, en regagnant la production alimentaire, puisque 50% de nos légumes sont importés, puisque le crash alimentaire va faire qu'on va perdre 20% de production encore cette année, que les fruits et les légumes sont de plus en plus chers, qu'il n'y a pas que l'essence qui augmente, eh bien que, et effectivement, les redevances versées à l'État et augmentées par Macron servent vraiment à faire de l'emploi agricole, c'est-à-dire qu'on arrête et qu'on débaptise les terres constructibles en terres agricoles, voire cette belle vallée de Chartreuse, bouffée par le goudron, le pognon et des trucs en béton qui servent à rien, vaudrait 10 000 fois mieux qu'on remette des biquettes, du bon lait bio, des bonnes patates et de quoi bouffer, et ça créerait beaucoup d'emplois, surtout qu'avec des machines modernes en aluminium, légères et la traction animale même, on pourrait faire une agriculture qui ne fasse pas 10 calories dépensées pour une calorie mangée, comme c'est le cas de l'agriculture pesticidaire, industrielle et l'agroalimentaire que nous connaissons, mais d'aller vers une multiplication des emplois à la campagne. On peut créer 1 million d'emplois, même plus, dans les activités de production alimentaire, dans nos vallées, dans nos forêts et dans nos lacs. Et surtout, on peut créer aussi, là c'est Attac qui le dit, 1 million d'emplois dans les énergies renouvelables. Là, je suis très prudent parce que moi, la folie des éoliennes géantes que se posséderaient seules les grandes multinationales en faisant travailler les gugus et qui vrombiraient toute la nuit autour de la Chartreuse ou d'ailleurs, ça me plaît pas du tout, me plaisent uniquement ce qu'on fait. Bah, par exemple, le site de Bonne Nouvelle. D'abord, la forêt allemande, là, ils viennent d'avoir un jugement positif. Donc, il reste un dixième ou un quart de la forêt. Donc, les gens, 50 000, ont manifesté leur joie. Le tribunal a ordonné l'arrêt de l'exploitation de la tourbe qui nourrit, je vous rappelle, en Allemagne, malgré la transition énergétique mise en évidence, et la moitié de leur énergie électrique est fabriquée avec du charbon et de la lignite. Une catastrophe pour le climat en Europe et les fumées qui retombent chez nous. Bah, pareillement, j'aimerais bien qu'on ne fasse pas d'éoliennes géantes, mais du petit éolien. Et bonne nouvelle, j'ai appris que le Syctome du Guier, le syndicat du Guier, Et j'aimerais bien les visiter. Et vous, si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager sur la radio. Le Sictum du Guier a acheté un digesteur, c'est-à-dire un méthaniseur, et il récupère tous les déchets bio pour en faire des bons engrais, de la bonne électricité, du bon chauffage urbain. Elle est pas belle, la vie, quand les élus se bougent. Moi-même, j'avais emmené quelques élus voir le méthaniseur du lycée de la Motte-Servolex, au lycée agricole, pour qu'il y ait un méthaniseur là des déchets verts, fumier et autres déchets qui n'est pas mis sur les champs, bien sûr. Hein, en priorité, on fait du compostage de surface, mais ce qui reste des déchets pourrait servir à faire du méthane, et du méthane, ça fait tourner un moteur, ça fait de la chaleur, ça fait du chauffage pour la salle des fêtes, la mairie, hein, c'est des petites installations. De même, le petit éolien municipal en propriété publique, de même, tout ce qui peut être petite chute d'eau, mais à récupérer, comme ici, à la Bridoire qui est privée. Mais j'ai vu qu'à Saint-Béron, il y avait une turbine, pétard, que non rachetée. Nous pas ces modes de fabrication d'électricité locale qui n'alimenteraient plus des grandes industries chimiques comme qui nous filent des médicaments qui nous tuent, pour quelques-uns qui peuvent encore être utiles, et que nous protégeons la nature qui a, dans certaines peuplades, été le médicament miracle pour tous les maux, ou presque. Voilà ce que je vous propose, c'est de basculer vers cette autre société. Et qu'on ait de l'air à respirer, alors dans nos vallées, alors j'ai vu sur le plan hein, que la Chartreuse était gravement impactée par un air qui fout le cancer hein, et qui tue 50 000 personnes par an en France. Et en tue en Chartreuse, en tue ici, et à Chambéry, bah, alors là c'est particulièrement pollué. Donc ces trois campagnes, l'air, le climat, la biodiversité contre les pesticides, eh bien rendez-vous devant vos mairies et bougeons-nous le train. Et faisons en sorte que les communes investissent dans des énergies petites, renouvelables, bien communes, c'est-à-dire contrôlées par vous les habitants grâce au Municipal 2020, où vous allez prendre le manche grâce à des commissions de sauvegarde de la nature et de l'environnement local, grâce à la sauvegarde des emplois qui ne détruisent pas le monde, et grâce à l'investissement public sans banque privée, et pour recouvrer notre souveraineté sur notre territoire et un peu plus tard, j'espère, un jour que la France retrouvera sa souveraineté monétaire, sa souveraineté internationale, sa souveraineté aux frontières pour l'argent fou qui s'évade de la France, dont je vous ai expliqué que c'est 200 milliards de pognons de dingue donnés aux riches et d'évasion fiscale en plus. Et voilà pourquoi nous sommes de plus en plus nombreux à être pauvres. Je vous souhaite une belle journée et de créer par vos mouvements d'aussi bonnes nouvelles que le sauvetage de ce qui reste de la forêt d'Ambar, que le sauvetage du lac d'Aigbelette qui est encore à gagner, que le sauvetage de tas d'autres endroits comme les coteaux du Lyonnais, ou ce qu'il nous reste pour vivre, nous et nos enfants, en faisant 1 million d'emplois dans la petite agriculture locale, l'attraction animale, et aussi dans les petites énergies renouvelables en régie publique. On s'écoute un peu de belle musique hein, choisie par Fabien. J'espère que vous appréciez parce que c'est vrai que quand on fait des topos comme ça à la radio, on fatigue un peu les ménages et donc en contrepoint, c'est quand même un choix fabuleux que nous fait Fabien et que je remercie ici ainsi que la radio qui nous héberge. Donc on continue la série qu'on vient de faire là. Climat, biodiversité, finance, foutre le camp, on fait quoi? Merci. Et belle journée. Blood on angels' day, 'cause
girl's way. 'Cause no one else could be the lucky guy. I think you told it all the time, and now I see you on the floor. That's what you have been waiting for. 'Cause you wanted once again. 'Cause you wanted once again. 'Cause you wanted once again. Once again.
Le taux marginal d'imposition sur le revenu, celui qui s'applique à la tranche la plus élevée des revenus, était encore à 65% en 1986. Là, on peut dire que Tonton, il n'a pas trop fait de conneries. Il en a fait beaucoup, hein, de privatisation de TF1 et tout ça. Et le taux d'imposition sur les sociétés était encore à 45%. Mais ça, c'est fini. Les entreprises du CAC 40 français, les 40 plus grandes multinationales françaises, CAC 40, ne payent plus qu'un taux d'imposition réel de 8%, alors que les petites entreprises qu'il y a ici en Chartreuse, elles versent 30%. Cette citation-là de l'Observatoire des inégalités ne tient pas compte des cadeaux Macron récents, parce que Macron, il a encore fait 7 milliards par an de réduction d'impôts pour les riches, notamment de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Il l'a réduite à peau de chagrin, hein, uniquement sur la possession de... Il a fait la réduction uniquement sur la possession d'œuvres d'art, de petites choses comme ça. Et il a laissé libre la fortune, soi-disant, pour investir dans nos entreprises, faire de l'or et que ça ruissellerait cet or sur les pauvres. Dont on voit que c'est exactement l'inverse. Mais aussi la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés qui fait passer de 33 à 25% d'ici à 2022. Soit un manque à gagner, grâce à Macron encore, de plus de 11 milliards d'euros en 2022. Merci Macron, tu piques encore 11 milliards. Merci Hollande, tu as piqué 43 milliards par an. Et Macron, tu nous dis que tu vas donner 8 milliards aux pauvres, attention, sur 4 ans, 2 milliards par an. De qui se moque-t-on ? Il va donner 2 milliards par an aux plus pauvres, encore pour les pousser à s'insérer dans le travail. Tu parles à 59 ans, complètement cuit. On va te pousser à aller couper du bois, alors que t'en peux plus, que tu as de l'arthrite, que tu as de l'obésité, que tu as du diabète ou toutes les saloperies qu'on ramasse dans une société de surconsommation. Ou en tout cas, une société qui vous vend de la merde alimentaire, agro-industrielle. Et donc, là, il y a un manque à gagner de 11 milliards grâce à Macron et il fait cadeau aux pauvres, là, prochainement, de 2 milliards par an. Ça craint ! Donc, l'ensemble des cadeaux riches, de la totalité, il dit, on sera environ au total à 300 milliards d'euros en calculant au plus bas. Même si on n'a pas tous les comptes des plus riches qui échappent à l'impôt, qui sont avec leur armée d'avocats qui n'arrivent pas à être ponctionné comme il devrait l'être. Donc, il faut encore ajouter à tout ça l'impôt sur les sociétés et avec des données fiables qui existent. 50 milliards d'euros moins de cadeaux fiscaux aux riches, non pas par rapport à une fiscalité juste idéalisée, mais par rapport aux normes, seuils étranges qui ont existé dans les années 70. Si on revenait aux années 70 et jusqu'au milieu des années 80. On en est donc, au total, là on récupère 50 milliards, à 300 milliards d'euros comme pognon de dingue d'aide aux plus riches en n'ayant pas retenu le haut de la fourchette pour l'évasion de la fraude fiscale ni pour les niches. Donc Macron prétend qu'il n'y a pas d'argent. Magique, dit-il, avec la magie de son verbe. Hein, il cause très bien. Hein. Il cause comme un professeur de français, qui est son épouse. Mais ça suffit pas de faire des belles phrases quand dans la réalité, voilà ce qui se passe. C'est tout simplement parce que Macron est bien le président des riches. Il vise avant tout à accentuer la redistribution à l'envers. On pique aux pauvres, on ponctionne les 90% les moins riches sur les services publics qu'ils ont plus, sur la protection sociale, sur la SNCF, sur l'hôpital, pour favoriser avant tout la toute petite minorité qui a ses faveurs et qui le rend bien. Écoutez, entre nous, hein, moi si j'ai 10 000 par mois, comme les professeurs de médecine, les spécialistes, ou 20 000 comme, je le disais, hein, dans mon refus de payer dépassement d'honoraires. Si j'ai ces revenus-là de la classe moyenne haute, j'en ai rien à fiche que l'hôpital soit délabré, rien à foutre de l'hôpital, que la SNCF arrive pas à l'heure ou que les voies soient pourries, qu'on en supprime. J'en ai rien à cirer de tout ça, dans la mesure où j'achète pas, moi, des pizzas Lidl à 1 euro avec de la sauce tomate venant de Chine, hyper. Voilà. Et qu'est-ce que veulent les pauvres ? Eh bien, ils veulent ce que les peuples indigènes d'origine d'Amérique disent vouloir. Ils ont 10 commandements. Finir avec le système capitaliste, renoncer à la guerre qui se prépare là entre Américains, Chinois, en fait des multinationales hein, pour le partage du monde. Hein. Chinois veulent faire la route de la soie pour envahir un peu la Russie, l'Europe, vendre leurs trucs partout. Et les Américains voudraient bien garder leur ancienne suprématie, mais c'est fini. C'est fini pour les Américains. 50% de l'économie mondiale il y a 50 ans et maintenant plus que 15%. Et là, les multinationales chinoises leur taillent des croupières. Renoncer à la guerre, un monde sans impérialisme ni colonialisme, on n'en est encore pas là. L'accès à l'eau potable pour tous les êtres vivants, ben oui, il y en a encore 2 milliards qui n'ont pas de l'eau potable. Et 800 millions qui crèvent la faim. Là, c'est grave puisqu'il y a 18 millions de plus de personnes qui sont dans l'extrême famine depuis l'année dernière. 18 millions de plus en une année, changement climatique, exploitation capitaliste, déforestation, empoisonnement général, perte de la biodiversité, c'est 18 millions de personnes qui ont dramatiquement faim en un an. On est revenu 15 ans en arrière. Voilà, le respect de la terre-mère, des services de base pour les droits humains, consommer ce qui est nécessaire, mettre la priorité sur ce que nous produisons et consommons localement. Promouvoir la diversité des cultures et des formes d'économie, vivre bien pour défendre la nature et la vie elle-même. Vivre bien, c'est vivre dans l'égalité et la justice. Vivre bien, c'est vivre en communauté, en collectivité, dans la réciprocité, la solidarité, la complémentarité. C'est pas vouloir détruire la nature comme vivre mieux. C'est pas vouloir vivre mieux plus que l'autre et gagner sur l'autre comme un concurrent. Même vivre mieux, c'est pas l'égoïsme. Vivre mieux, c'est l'égoïsme, le désintérêt pour les autres, l'individualisme. Vivre bien, c'est vivre dans l'égalité des conditions et dans la bienveillance et le souci des autres. Vivre bien fait partie de la culture de la vie des peuples indigènes, pas du tout de celle du peuple que le capitalisme a transformé en zombies concurrents les uns des autres. Eh bien, pour finir, je voudrais vous dire que la troisième piste, là, c'était récupérer l'argent que l'État donne aux riches. La troisième piste, ce serait de sortir du système. Eh bien, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Je vous avais parlé de régie publique alimentaire, de régie publique d'énergie. Eh bien, on pourrait peut-être, localement, déjà, en attendant peut-être des gros changements nationaux, je ne sais pas si on est déterminé à prendre vraiment le manche, mais localement, il est tout à fait possible de créer des emplois sans croissance, sans tuer la nature et de réduire les inégalités et la misère sociale. Créer des emplois sans croissance, ça veut dire sans croissance, sans croissance des quantités produites, c'est-à-dire où on accroît le PIB, mais la croissance de la qualité et de la durabilité des produits. Alors, qualité de la vie, qualité des produits, durabilité des produits, processus de travail respectueux des êtres humains, mode de vie, dans le sens de la philosophie des peuples indigènes que je viens de vous dire. C'est une possibilité que la plupart des économistes ignorent. C'est vrai que pour être un économiste, ceux qui croient qu'une croissance infinie sur une planète finie est possible sont soit des économistes, soit des fous, dit la décroissance. Ben, ils ont bien raison. Quand la productivité du travail progresse de 1% par an, il faut une croissance de 1% pour seulement maintenir l'emploi et plus de 1% pour ajouter des emplois. Et voilà, tous les économistes raisonnent en termes de PIB, produit intérieur brut, et en termes de productivité. Voilà, mais c'est absolument insoutenable quand la planète entre dans la catastrophe. Il passe à côté de ce qui est l'essentiel. Voilà. Le gigot néo-zélandais, il a parcouru 18 000 km hein, pour être pas cher dans nos frigos, enfin pas cher, voilà. Il a donc bouffé par 50 kg de gigot 2 tonnes de CO2, 18 000 km en avion cargo réfrigéré. Mais on peut faire du gigot propre et sain local, de proximité, en Chartreuse ou ailleurs. Mais il sera un petit peu plus cher. Tout ce qui est en train de bousiller les ressources naturelles, l'eau, la biodiversité et le climat, compte pour du beurre dans les comptes des économistes. Ce qui détermine l'emploi, ce n'est pas le couple croissance-productivité, c'est d'abord la valeur ajoutée et son contenu en travail. Or, il existe deux grandes façons typiques de faire progresser la production. La première consiste à produire en masse, comme Ford, des bagnoles, comme des saucisses, des smartphones, plus des mêmes choses avec la même quantité de travail. C'est la définition des gains de productivité du travail. De plus en plus, avec des machines de plus en plus rapides, on produit de plus en plus, ce qui fait que par unité produite, c'est moins cher. Ça, c'est le productivisme. Mais il y a une seconde façon de faire qui va au cœur du développement soutenable ou de société plus égalitaire, consisterait à créer beaucoup d'emplois en plus, tout en protégeant la nature. Ça consiste à produire et consommer autrement et plus sobrement d'autres choses. Par exemple, des kilowattheures, ni nucléaires, ni faits avec des centrales à charbon, mais avec des petites éoliennes, avec des biodigesteurs. Voilà, on en consommera moins, ça c'est sûr. Ça, et on est obligé d'aller à la décroissance industrielle. Mais qu'on ait au moins de quoi se chauffer, de quoi bidouiller, ou au moins de quoi s'éclairer. Des aliments bio, vous pouvez produire des aliments bio de proximité, des mètres carrés d'appartements à zéro émission parce que vous les avez faits en bois de pays avec de la paille de pays et du chanvre de pays, des produits de longue durée, des produits recyclables, des recycleries comme il y a ici qui redonnent une vie et donnent de l'emploi et cela en général demande plus de travail et crée plus de valeur ajoutée par unité produite. Vous produisez moins, mais par unité, vous faites plus de valeur ajoutée que dans les solutions productivistes.
L'homme a tiré pour être le plus fort, l'homme a tiré pillant tous les trésors, l'homme en tirant la vie des gens au sort s'est fait tyran sans l'ombre d'un remords.
dans le pied, c'est ça le pire. Demain qui va pleurer, oui, l'homme se tire. Une balle dans le pied, c'est ça le pire. Plus personne pour pleurer.
Par conséquent, il est possible d'envisager une production et des modes de vie axés vers la durabilité, la soutenabilité de la nature, par substitution des productions capitalistes de masse aux solutions, donc des solutions sales, sales pour les travailleurs et sales pour la planète, et donc ça va se traduire par une baisse de la productivité du travail telle qu'on la mesure actuellement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. En revanche, cela n'a aucune raison de réduire la valeur ajoutée globale et l'emploi. Au contraire, on peut créer 1 million d'emplois dans la petite agriculture biologique et permaculture, 800 000 dans les petites énergies renouvelables. Je n'ai pas dit de prendre des éoliennes géantes, des hydroliennes géantes, faites par des sociétés géantes et reconstituant du capitalisme géant, ou pire, un capitaliste d'État comme l'ex-URSS où des trucs géants étaient faits par un capitaliste d'État géant où les gens géraient ça, les apparatnikis géraient ça depuis leur bureau et sont devenus les nouveaux salauds du capitalisme russe mafiotique avec des entreprises géantes, multinationales géantes qui s'affrontent les multinationales américaines qui essayent de collaborer avec les chinoises parce qu'ils ont peut-être intérêt, mais le peuple russe aujourd'hui, il y en a 60-80 millions dans la pauvreté. Fermons la parenthèse. Des scénarios existent pour une agriculture, une industrie, des bâtiments, des transports et des énergies durables. Ils combinent les apports des technologies et ceux d'une sobriété discutée dans la société. On peut très bien aller, comme disait un secrétaire du Parti communiste italien, Berlinguer, vers une austérité juste. Dans la mesure où vous prenez par l'impôt aux riches, dans la mesure où vous ne donnez plus l'argent aux grandes entreprises privées, dans la mesure où vous rapatriez l'argent évadé fiscal, vous pouvez tout à fait réduire les inégalités et du coup accepter que même si on ne gagne que 1500 euros, on n'est pas comme rêve de se baffrer comme ceux qui ont 30 ou 40 000 euros par mois. Ça exige beaucoup d'emplois, tout ce que je raconte là, cette relocalisation, cette production de proximité, de redévelopper des filières locales. J'ai dit dans la précédente émission ma souffrance de voir que sur la route qui mène de Saint-Franc au fin fond de la vallée, là, de la Chartreuse, vous qui m'écoutez, on a un rond-point tous les kilomètres du béton. Un rond-point, c'est 700 000 euros en moyenne, ou 400 000 à 1 million d'euros. Autour de ces ronds-points, on a quoi ? Des cubes en béton de merde pour faire des entreprises plus ou moins utiles. Alors qu'avant, ici, on se faisait des bons légumes, on pouvait se faire du bon seigle, du bon pain de seigle, on pouvait se faire des chèvres, des moutons, voilà. Et maintenant, on n'a que du goudron, du béton, des trucs, et tout ça, ça ne se mange pas. Et tout ça, quand va arriver la rupture des chaînes alimentaires, ça va se payer très cher. Aujourd'hui, il faudrait préserver toutes les forêts, toutes les zones de biodiversité, toutes les zones agricoles, toutes les terres arables pour faire à manger à nos enfants dans les cantines est pour une alimentation publique sobre, hein, à bas les pizzas surgelées venant de Chine, mais sobre, mais local, mais créant de l'emploi pour plus de personnes. Bien sûr, ce ne seront pas des revenus de 10 000 par mois, mais ça permettra à tout le monde de vivre, parce que là, on risque d'arriver à une situation où c'est la moitié des gens qui n'auront plus rien à bouffer. Il existe donc une possibilité d'avoir de l'activité, de l'avoir de l'emploi, de qualité, en faisant plus de valeur ajoutée par produit, un kilo de tomates bio, propres, bien faites, comme mes copains là de la petite Perrière du côté de Pont de Beauvoisin, ils vous vendent le kilo de tomates à 3 euros, bon, ils ont un peu augmenté cette année à 3,50 €, elles sont absolument excellentes, vous avez de la noire de Crimée, de la Green Zebra, de la cornue des Andes, de la merveille des marchés, de la russe, de la jaune, de la nana. Je l'ai fait toutes, hein, celle-là, entre parenthèses. Hein, si un jour vous passez, venez voir. Toutes ces belles tomates, elles vont être un peu plus chères au kilo. On ne va pas vous vendre de la tomate de supermarché avec laquelle on peut jouer au football et qui vient direct du sud de l'Espagne par camion entier à 2 euros. Mais c'est de la merde. C'est plein de pesticides. C'est dur. Dedans, il n'y a pas cette saveur extraordinaire d'une vraie bonne tomate locale. Avec des serres, on peut en produire des tomates à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Il n'y a aucun souci. Moi, j'en produis sous le Mont Grêle, même en plein air, si on s'y prend bien. Donc, il est possible d'avoir des produits et des services durables, locaux, démondialisés, décapitalisés, faits dans des coopératives, à condition que nos élus changent de logiciel. Au lieu d'être élus pour 5 ans et de faire que des trucs qui en jettent, qu'ils réfléchissent sur 30 ans. Qu'est-ce qui va permettre à la population de se mettre à l'abri? Eh bien, ce qui va permettre à la population de se mettre à l'abri, c'est de taxer les riches. Même si ici, vous avez une baraque qui est habitée 15 jours par an, mettez 5 fois la taxe foncière, vous avez le droit en tant qu'élu. Et vous récupérez le pognon. Et vous faites une CCAS qui va redistribuer aux plus pauvres au niveau de la commune. Vous préemptez les terrains pour les stocker en tant que propriété communale, en vue d'installer des petits paysans, des coopératives, ou carrément, comme à Moinsertou, une régie publique alimentaire, mais j'en ai parlé dans ma première édition. Donc, il est possible d'aller vers une vie plus sobre, plus convivial, avec plus de vie dans le patelin que d'aller prendre sa bagnole pour aller à la grande surface, à condition de développer de l'emploi ici, local. Je connais une charmante professeure, j'espère qu'elle m'écoute, au lycée Pravaz, qui abandonne et qui se lance dans l'élevage de chèvres. Elle a tout compris. Elle va pas gagner 2300 euros comme actuellement par mois, mais elle va gagner 800, 900, 1000 euros, mais elle va être heureuse avec ses chèvres et elle va faire du bon fromage pour la cantine. Partage du pouvoir économique et politique, partage des ressources économiques et naturelles, partage du travail, solidarité avec les générations futures. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui pour faire face au cataclysme qui arrive dans cette cocotte minute qui est devenue la planète Terre du fait de ce capitalocène, c'est-à-dire ces deux siècles de course aux énergies fossiles de la part d'un capitaliste qui courait à produire le max pour faire le max de profit, vendre le max d'objets inutiles ou quelques utile, parce qu'il joue toujours, bien sûr, là-dessus. Un téléphone portable, c'est utile. Mais c'était tellement utile d'avoir une cabine tous les 200 mètres avec du cuivre, alors que le téléphone portable a ravagé toutes les ressources en métaux rares dont on va manquer. Il n'y a plus de cuivre dans 15 ans. Point. Il n'y a plus d'étain pour faire les petites soudures dans 10 ans. On va faire comment ? On aurait gardé ces cabines partout, on avait au moins la possibilité de faire quelques mètres. Au pied de son HLM, il y en avait au pied de tous les HLM. La mémé, elle pouvait descendre de l'ascenseur et donner son petit coup de fil en se mettant un petit pull pour, dans sa cabine, joindre qui elle voulait ou être jointe dans la cabine. Si elle n'avait pas le téléphone chez elle, mais un téléphone filaire et au cuivre qui nous permet d'avoir Internet, c'est déjà pas mal. Pourquoi 90 millions de portables dans les tiroirs français, 56 millions de smartphones qui ont tué 6 millions de personnes, pour faire quoi? Passer des heures et des heures, t'es là, oui t'es là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je fais et toi tu fais ce que tu fais. Il faudrait peut-être réfléchir à un mode de société durable. et plus convivial, parce qu'une cabine, on se retrouve à la cabine, on fume un pétard, on ne fumera pas de pétard, parce qu'aujourd'hui, c'est mortel pour la santé, je ferai une prochaine émission, à 35% de THC, ça détruit le cerveau. Mais j'en reparlerai, je vais me faire mal voir si je le dis trop vite, mais faites gaffe avec les nouveaux cheats qui sont extrêmement destructeurs de la mémoire. Alors, pour éradiquer la pauvreté dans un monde durable, les ressources existent, sans exigence de croissance. Halte à la croissance. Il faut juste les distribuer autrement. Les 0,15% les plus riches du monde détiennent à eux seuls un patrimoine de 60 000 milliards de dollars. Il y a 3 milliardaires, ils possèdent plus que 3 milliards 800 millions de personnes. Vous avez vu tous ces chiffres d'Oxfam, vous tapez inégalité Oxfam sur Internet, vous les aurez tous. C'est hallucinant. Un ISF mondial, même modeste, sur les transactions, comme proposait Attac il y a quelques années, et encore aujourd'hui, rapporterait 600 milliards par an. Un ISF sur les fortunes mondiales, sur les 1800 à 2000 milliardaires, ça serait 600 milliards par an. Il y aurait de quoi aider les gens des îles Tuvalu à quitter leur île, qui est menacée par l'augmentation de 80 cm de niveau des océans. Ça permettrait de faire... Donc les réductions d'impôts décidées donc depuis 2000 en France en faveur des plus riches représentent un manque à gagner de 30 milliards d'euros par an pour les finances publiques, bien au-delà du seul paquet cadeau Sarkozy. Si on y ajoute les réductions de cotisations sociales depuis 92, cela ferait plus de 50 milliards. Si on y ajoute les niches fiscales pour frayer la fraude fiscale, l'évasion, etc., on a d'énormes ressources publiques. Là, ils ont été chiffrés par Gadret à minima de 300 milliards par an. Avec ça, vous pouvez aider les collectivités locales à acheter des terres, à acheter des serres, à accompagner des jeunes, à faire des chèvres, des bons légumes, à essayer de rétablir des cabines, à faire que les vieux ne soient pas abandonnés dans les EHPAD où il y a un soignant pour six vieux ou huit vieux en France, alors qu'il y a un soignant pour un vieux en Allemagne. Un soignant pour un vieux. C'est ça la bonne norme. Ben, vous vous rendez compte, il faudrait multiplier par 6 les embauches dans les EHPAD. Et ben, que les gens qui aiment les vieux puissent aller y bosser, mais y bosser convenablement et pas s'esquinter le dos pour même pas un SMIC. Voilà. Donc, j'ai fini. Si vous avez pris quelques notes, tout ça, vous pouvez le vérifier. Les croissancistes, vivent la croissance à la Macron qui... fusille la SNCF pour faire des bus Macron. Je vous rappelle que maintenant, les bus Macron, ils piquent 12% du marché des trains, donc plus la peine de faire des trains. On met des gens dans des bus, c'est inconfortable, on s'y fait chier. Alors que dans les trains, on peut bouquiner, discuter. Moi, je prends toujours le train pour aller à Lyon. Je rencontre toujours des gens formidables. Une association culturelle là qui fait de la musique autour d'Aigbelette, du Tonnerre de Dieu. Chaque fois, je rencontre des gens du Tonnerre, alors que dans un bus, vous êtes coincé au fond de votre machin. Vous pouvez ni dormir, ni bouquiner. Vraiment, et ça pue et ça pollue. Je vous rappelle qu'un bus Macron, en gros maintenant, la norme c'est 600 chevaux. Ça fait 55 litres de gasoil au 100. Alors que c'est 20 fois plus qu'un bon train électrique ou à gaz. Parce qu'électrique, ça fait tourner les centrales nucléaires. Et puis peut-être qu'un jour, on fera avec du gaz, bio. De méthaniseurs partout, on peut faire. Tiens, je félicite la Comcom du Gué, ils ont acheté un méthaniseur. Est-ce que c'est ma conférence à Pont-de-Beauvoisin ou mais ils ont acheté un petit méthaniseur. Ils récupèrent tous les déchets bio des magasins bio et tout ça, des producteurs, et ils font du gaz bio. C'est pas formidable? Le gaz bio, vous faites tourner un moteur pour faire un peu d'électricité bio. Vous gardez un peu de ce gaz bio pour faire de la cuisine bio. Et même mieux, quand le moteur y tourne, vous faites de la chaleur bio pour votre salle des fêtes ou vos HLM bio. Et évidemment, c'est 10 000 fois moins puissant qu'une centrale nucléaire ou qu'une usine à charbon. Mais au moins, ça mettrait nos populations à l'abri. Vive le biodigesteur bio pour faire de la chaleur, de l'électricité locale avec des déchets de bois, des déchets de vache, le fumier de vache, c'est ce qu'il y a de mieux et ça marche du tonnerre.
C'était la saine cause pour un bien commun et un monde vivable.